Vous êtes sur RTL.
Citroën.fr.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le procureur général près la Cour de cassation, François Molins.
Bonjour François Molins.
Bonjour.
C'est un grand honneur de vous recevoir ce matin sur RTL alors que s'ouvre le procès des attentats des cafés parisiens, du Stade de France et du Bataclan le 13 novembre 2015. Vous avez pris une place particulière dans les foyers français en tant que procureur général de la République de Paris. C'est vous qui, de manière sobre, claire et précise, rendiez compte chaque soir de l'avancée de l'enquête. François Molins, vos conférences de presse débutaient toujours par cette phrase « J'ai d'abord une pensée pour les victimes et leurs proches ». Vous allez vous retrouver face à ces victimes, notamment lorsque vous serez appelé à la barre en tant que témoin. C'est un moment que vous appréhendez ?
Non, parce que des victimes, j'en connais, j'en vois souvent, j'en vois régulièrement, notamment dans les cérémonies commémoratives des attentats. Donc non, je ne crains pas la confrontation avec les victimes. Je pense même d'ailleurs qu'elles ne sont pas pour rien dans le fait que je sois cité comme témoin. Moi, je considère que je leur dois bien de venir et puis d'apporter toutes les explications qu'on attendra de moi. Ça ne me pose pas de problème, ça.
Vous aviez conscience d'être le visage rassurant au milieu du chaos et de la barbarie au moment où vous faisiez ces points presse ?
On me l'a beaucoup dit après, mais on n'en a pas pris conscience immédiatement. À la base, on a communiqué parce qu'on avait conscience de l'immensité de l'attente de la société française et de nos concitoyens de savoir ce qui se passait, de l'attente tout à fait légitime d'avoir des informations fiables et précises sur ce qui se passait. Il n'y a que nous qui pouvions les donner. Donc cette dimension de réassurance, on l'a pas vu tout de suite, on nous l'a dit. Et il est vrai qu'une fois qu'on nous l'a dit, on a fini par l'intégrer. Ça a d'ailleurs pu nous conduire à effectivement toujours bien intégrer le fait qu'on n'était pas là dans les éléments qu'on donnait pour en rajouter. Mmh. Et on a pu parfois effectivement ne pas trop insister, voire parfois taire certaines choses. Et avec le recul, franchement, si ça a pu contribuer à calmer les peurs et les angoisses... Je trouve que c'est bien.
Mais pardon, dans un moment aussi horrible, on met son émotion de côté ou on est quand même envahi et on la gère, cette émotion ?
Non, on ne la met pas de côté parce qu'elle est en vous, l'émotion, compte tenu de ce que vous avez vu, mais il faut la gérer et se réfugier tout de suite dans un exercice professionnel et effectivement se concentrer sur son office et prendre les bonnes décisions.
Comment on gère ça ?
Mais on ne peut pas l'évacuer, l'émotion.
Comment on la gère ?
On la gère avec sa personnalité. Mais encore une fois, quand vous êtes concentré dans votre office, que vous pensez vraiment à ce que vous faites, bon, vous arrivez à peu près.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Ça va.
6 ans après, les choses s'atténuent ?
Ça s'atténue, ça revient. Si vous voulez, je pense que c'est comme pour tous les acteurs qui ont été là cette nuit-là et qui ont vu tout ça, hein, parce que je ne suis pas le seul à avoir vu des horreurs. Je pense que c'est des visions qui nous poursuivent, puis qui resteront dans nos mémoires et qui partiront jamais. Mais je pense que c'est le cas de tous les acteurs, encore une fois, de la justice, de la police, des unités d'assaut, des personnels sanitaires.
Mais vous n'avez pas vu, oui, effectivement, vous n'avez pas vu des choses tout à fait normales. Tout est intact dans cette tête.
Oui, ça. C'est intact et précis dans ma tête, comme si ça s'était passé il y a quelques semaines. Hein. Ça, il y a aucun problème là-dessus.
Et il y a des images particulières qui vous poursuivent ?
Oui, bien sûr, les scènes des terrasses et la fosse du Bataclan, plus que d'autres.
Vous avez tout de suite voulu aller sur place. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué en arrivant ? Vous êtes d'abord arrivé, je crois, sur les terrasses.
Sur les terrasses, oui.
Qu'est-ce qui vous a le plus choqué ?
Ces spectacles de corps pliés sur le trottoir. Hein, et puis après, effectivement, la fosse du Bataclan. Ce qui m'a beaucoup choqué aussi, après, c'est d'écouter la bande sonore d'enregistrement du Bataclan. Donc, le son et pas l'image. Et cet enregistrement, effectivement, qui retrace bien les tirs des terroristes sur les victimes qui sont dans la salle et qui sont très souvent des tirs par à coups, donc en fait des exécutions.
Quand vous arrivez au Bataclan, vous ne vous attendez pas à ce que vous allez voir ?
Non.
Vous attendiez
non,
à quoi ?
Non, je ne m'attendais pas à un bilan pareil.
Pourtant,
et honnêtement, quand on m'a dit, je crois que c'est 90 ou 91 morts au Bataclan, franchement, je ne m'attendais pas à ça.
Mais vous vous attendiez à quoi quand vous faites le chemin?
Peut-être moi je me raccrochais à quelque chose de plus de moins lourd comme bilan. Je suis peut-être trop naïf, mais donc enfin, franchement je m'attendais pas à ça et c'est vrai que quand j'ai vu tout ça, ça m'a choqué.
François Molins, qu'attendez-vous de ce procès?
Le problème, ce n'est pas tellement ce que j'en attends, mais je pense que ce qu'on doit en attendre, moi je vois trois choses qu'on peut attendre du procès. Alors bien sûr, mais ça c'est un peu à côté des choses. C'est la capacité de l'institution judiciaire à mener les choses au bout correctement. À côté de ça, il y a trois choses.
Vous avez des doutes ou...
Non, compte tenu de la qualité de la préparation et des moyens qui ont été mis, j'ai aucun doute là-dessus, et de la qualité des gens qui vont intervenir. Donc la manifestation de la vérité, faire en sorte que ces 9 mois de procès permettent à tout un chacun, et notamment aux victimes et à leurs familles, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi, comment, par qui, pour quelles raisons. La seconde, c'est effectivement de permettre pour toutes les victimes, quoi qu'elles aient choisi, aller à l'audience, écouter les débats avec ce site de web dédié, offrir aux victimes la possibilité de comprendre et donc de se reconstruire et de renforcer leur résilience. Et la troisième, je le dis toujours, c'est une sorte de participation à la construction d'une mémoire collective. Parce que le 13 novembre, ce sont des tueries de masse. C'est autre chose encore que Charlie Hebdo hyper cacher. Et je pense que il faut montrer aujourd'hui, faut construire cette mémoire collective. C'est l'objet du musée mémoriel du terrorisme, qui est en cours. Construire cette mémoire collective en réaffirmant les valeurs d'humanité, de dignité de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et dans laquelle on veut, je pense, tous vivre encore demain.
Mais comprendre, ça peut atténuer, vous pensez, les souffrances, notamment des familles.
Je pense que ça peut permettre de renforcer, de faciliter un travail de reconstruction pour ceux qui en ont encore besoin.
Vous avez vu que certaines familles, certaines victimes ne se font pas beaucoup d'illusions, sachant que l'un des seuls rescapés du commando, Abdeslam, se terre dans le mutisme.
Je suis sceptique, moi, là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il fera. Je préfère... Vaut mieux rester, je pense, sur l'attitude qu'il a. Et bon, tout le monde espère, je pense, qu'il parlera. S'il parle, ça sera une surprise, on va dire, positive pour beaucoup de gens. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne fais pas de pronostic là-dessus.
À l'époque, votre rôle, François Molins, en tant que procureur de la République de Paris, c'est de notamment lancer les poursuites, les accusations. Ouais. Vous avez été déjà en poste au moment des attaques de Mera, de Charlie Hebdo, de Montrouge, de l'hypercachère. Vous l'avez vu monter, cette menace terroriste?
Oui.
Il y a eu des alertes?
Oui, bien sûr.
Pourquoi on n'a pas pu les arrêter?
Parce qu'on n'a pas, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que, bien sûr, il y a eu des failles, tout le monde le reconnaît, mais on voit aujourd'hui les choses avec une grille de lecture qu'on n'avait pas à l'époque. Aujourd'hui, on sait tout, donc effectivement, on décrypte tout, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. À l'époque, on a bien sûr des signes de montée terrible de la menace. Il y a tous les départs en Syrie, il y a près de 2000 Français qui sont partis là-bas.
Il y a même un djihadiste qui vient dire ça va, ils vont frapper un pays. Il y a Marc Trevidic,
bien sûr. Et l'année 2015, effectivement, qui est particulière, puisque l'année 2015, vous avez Charlie Hebdo, l'hypercachère. Le 15 janvier, vous avez la fusillade de Verviers, avec les commandos pilotés par Abaoud. Vous avez ensuite, fin mars ou début avril, vous avez l'affaire Sid Ahmed Glam avec la tentative avortée d'attentat à Villejuif. Vous avez ensuite l'attaque du Thalys, à la fin du mois d'août. Donc on le voit que ça monte. Et on sait effectivement, à cette époque, c'est ce que nous disent les services de renseignement, que la menace est extrêmement élevée, qu'il y a une sorte de ministère des opérations extérieures de Daesh qui est en train de travailler pour faire des actions tout à fait nuisibles à l'étranger dans notre pays, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas plus. Et le sujet est d'autant plus difficile à approfondir que les terroristes, ils ne sont pas chez nous. Ils sont dans une base arrière dans un pays voisin. Mais qui complique aussi les choses.
On n'en sait pas plus, mais on sait qu'on n'a pas assez de moyens de surveillance, qu'on est incapable d'intercepter des discussions cryptées, qu'il y a des ratés entre les services européens et français. On le sait, ça?
Ben on sait après coup que la coopération à cette époque-là aurait pu mieux marcher. Ça, c'est évident. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'était il y a 5 ans, qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis, en renforçant l'arsenal législatif. Les services de renseignement ont beaucoup plus de pouvoir, d'ailleurs, avant les attentats, puisqu'ils ont ces pouvoirs depuis une loi de juin 2015, et heureusement qu'on l'avait. Et on a beaucoup progressé depuis, notamment sur le... On a certainement perdu en naïveté, on a progressé en coordination des renseignements, on a beaucoup progressé sur la coopération internationale, sous l'égide d'Europol et d'Eurojust, on ne travaille pas de la même façon.
Vous le vivez comme un échec ?
Ben, c'est par définition, ça avait été reconnu par certains chefs de service. On vit toujours un attentat commis comme ça, comme un échec. Toujours.
François Molins, ce procès va durer 9 mois au moins. Les accusés seront à la barre à partir de janvier. Nous serons en pleine campagne présidentielle. Vous avez peur d'une récupération politique ? Vous êtes monté au créneau hein, en avril dernier contre l'instrumentalisation de la justice.
Je pense que la justice remplit un office qui est particulier dans ce dossier, qui est celui de déterminer d'abord si les 14 accusés qui seront présents dans le box sont coupables ou pas. C'est ça son office, apporter des réponses aux victimes. Le reste, j'allais dire, renvoie pas de moi.
Et j'espère... Vous avez un message aux politiques, en tout cas ?
Après, encore une fois, ça renvoie... le message politique, c'est peut-être celui que j'évoquais au début. Moi, pour moi, c'est est-ce que la justice est en capacité de mener à bien ce procès ? Je pense que oui. Et j'espère que ça renforcera le degré de confiance des Français dans cette institution, parce qu'il s'est un peu érodé ces derniers temps.
François Molins, vous occupez aujourd'hui le poste le plus élevé du parquet, procureur général près la Cour de cassation. Vous avez récemment fait savoir que dans la crise du Covid, des milliers de plaintes arrivaient à la Cour de justice de la République, la Cour qui juge les premiers ministres, ministres et secrétaires d'État pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Des milliers de plaintes, combien ?
On était la semaine dernière, je crois, à 14 500. C'est des plaintes qui arrivent par caisse. Et ça s'explique, pas. D'abord, c'est curieux parce que devant la Cour de justice, il n'y a pas de constitution de partie civile. C'est comme ça. Pourtant, ces plaintes arrivent. Alors, ces plaintes, en fait, moi, j'y vois la traduction de deux phénomènes. Le premier, je pense que tout le monde en a conscience, c'est ce phénomène de judiciarisation croissante de la société.
Les
et le second, c'est une explication plus terre-à-terre qui vient du développement d'Internet et des réseaux sociaux, c'est la mise en place par un avocat sur Internet d'un site qui comprend des plaintes en ligne qu'on peut télécharger, remplir et envoyer après avoir payé 2 euros à l'avocat concerné. Voilà donc le résultat. Donc ces plaintes, elles arrivent à la commission des requêtes qui statuera sur leur recevabilité.
Ben, ça ne va pas être facile à traiter.
Non.
Merci infiniment, monsieur le procureur François Molins.
Merci beaucoup, François Molins. Et si vous le voulez bien, restez avec nous.